Les deux bouts de la corde, par Richard Keller, chapitre 14. Après le repas, les trois gendarmes prirent contact avec M. Cancelier. Il habitait une vieille maison en pisé. Ce matériau, utilisé autrefois, était constitué d'un mélange de terre battue et de paille. Avant l'industrialisation et l'avènement du moellon, chaque région utilisait les matériaux et les ressources locales. Le pisé était un excellent isolant. Les bâtisses gardaient la chaleur l'hiver et une bonne fraîcheur l'été. Les murs étaient très épais à la base et se rétrécissaient au fur et à mesure de la hauteur. La terre craignait l'humidité. Il était donc primordial d'éviter les gouttières et les infiltrations. Un bon drainage et une surveillance fréquente permettaient de garder les bâtiments en bon état. M. Cancelier reçut les trois gendarmes dans sa cuisine. Le gendarme Gilles lui demanda s'il se souvenait des bénévoles qui avaient assuré les nuits, depuis le dimanche précédant le meurtre, des époux de Rochard. « Je m'en souviens parfaitement. Nous ne sommes que trois ce mois-ci. Les deux autres sont messieurs Pietri et Rivaroux. Je vous marque leur adresse sur un post-it. » Gilles remercia M. Cancelier et les trois gendarmes montèrent à bord de la Peugeot. M. Pietri était un secrétaire de mairie à la retraite. Il s'était investi dans le bénévolat afin de garder le contact avec l'aide sociale qui avait rempli une grande partie de sa vie active. Il habitait à environ 800 mètres de chez son ami, M. Cancelier. Lorsque les gendarmes se garèrent devant la villa Montrêve, ils aperçurent M. Pietri derrière une haie, un sécateur à la main. Ils connaissaient les Pandores, Liard et le Nordiste. Ils se serrèrent la main. Le jardinier avait pris soin d'enlever ses gants et de poser son sécateur dans la brouette. « Quel bon vent vous amène ? Vous savez, après la pluie de ce matin, je nettoie un peu. Les rosiers sont des arbustes fragiles et c'est ma passion. » Le nordiste expliqua le but de la visite. « Nous voudrions avoir une description des personnes qui ont dormi au logis de nuit et savoir si vous avez remarqué un détail inhabituel. Cher ami, il y a eu peu de passages, 5 ou 6 routards tout au plus. Il n'y en a qu'un qui nous causait du souci. Il était ivre et se vantait d'avoir tué la terre entière. Tenez, maintenant que nous en parlons, il avait lu le meurtre dans le journal qui est au refuge. Eh bien, figurez-vous qu'il prétendait en être l'auteur. J'aurais dû vous le signaler. » Liard lui demanda s'il pouvait décrire l'ivrogne en question, et surtout s'il avait une trace de son identité. « Il n'est pas très grand, brun aux yeux noirs, et il a les jambes arquées comme un cow-boy. Il a un tatouage sur un avant-bras. Ça représente une ancre de marine avec une corde enroulée autour. Son nom est facile à retenir. Il s'appelle Bécrane. » Le nordiste pensa que, décidément, les cordes devenaient le sujet de conversation le plus fréquent. « Dites-moi, sur quel bras figure ce tatouage ?»« Je ne puis vous affirmer lequel avec certitude. » Liard s'adressa de nouveau à M. Pietri. « Il vous a quitté quel jour ? Savez-vous où il allait ?»« Il est parti le vendredi matin. Il disait qu'il allait voir des amis à Bourgoin. J'ai une idée. Il y a un refuge de nuit là-bas. Essayez de voir avec eux. Il est fréquent que nos pensionnaires d'une nuit dorment dans des structures voisines de la nôtre. » Gilles n'avait rien dit. Il avait laissé faire ses collègues qui connaissaient bien leur interlocuteur. Il prit la parole pour remercier M. Pietri. Ils se serrèrent la main et filèrent chez M. Rivaroux. Il habitait à 2 kilomètres de là. M. Rivaroux résidait dans un lotissement. Il n'y avait personne. Les volets étaient clos. Un voisin vint à leur rencontre. Il leur apprit que M. Rivaroux était parti pour 2 ou 3 jours rendre visite à sa sœur malade. Ils remercièrent le voisin et tournèrent en direction de la gendarmerie. Le gendarme nordiste décrocha le téléphone et composa le numéro de la brigade de Bourgoin. Il demanda à parler au gendarme Huisman. « Allô ? Qui est à l'appareil ? » ?»« Jeff Huisman, bonjour. Jean-Baptiste, Van de Véro-Vérin-Nice. Comment vas-tu, cher ami ? Ça fait longtemps que nous n'avons pas conversé. En effet, tu sais ce que c'est, le temps passe vite. Et pourtant, quand j'y pense, c'était hier que nous nous amusions ensemble dans les corons. Le ch'ti me manque, et toi ?
C'est sûr, mais la région est tellement super que la nostalgie du pays s'estompe.
Je suppose que tu ne m'appelles pas uniquement pour prendre des nouvelles. Que puis-je faire pour toi ?
Eh bien, Jeff, nous avons un double meurtre sur les bras et très peu d'indices. Il se trouve qu'un vagabond, du nom de Bekran, est suspecté, et il pourrait se trouver dans vos parages.
Écoute, ce nom ne me dit rien, mais je vois avec mes collègues et je te rappelle.
Dans une heure maxi. À la gendarmerie, ça te va ?
Tout à fait. Je ne bouge pas en attendant ton appel. À tout à l'heure, Jeff.
Jeff Huisman et Jean-Baptiste, surnommés le Nordiste, en raison de la difficulté à prononcer son nom sans l'écorcher, se connaissaient depuis le berceau. Ils avaient vécu toute leur enfance à Waterloo, leurs pères respectifs étaient mineurs. Le bassin minier n'offrant pas de travail à ses enfants, ils avaient opté tous deux pour la gendarmerie. Au début, ils se voyaient souvent. Puis avec les années et le mariage de Jeff, les relations s'étaient espacées. C'est souvent comme cela, les amitiés les plus solides ne résistent pas toujours à l'arrivée d'une autre personne dans la relation existante. Désormais, ils se téléphonaient de temps à autre, mais leur amitié était toujours là, simplement mise entre parenthèses. 38 minutes exactement s'étaient écoulées lorsque le téléphone sonna dans le bureau du Nordiste. C'était Jeff. Il avait un renseignement intéressant à lui communiquer.
« Alors, Jeff, il y a du neuf ?»«
Tu peux le dire. Je crois qu'on a ton client. Il n'aurait pas un tatouage sur l'avant-bras ?»«
Une ancre de marine entourée de cordes. »«
Il a été arrêté cette nuit pour tapage nocturne et voie de fait sur un policier dans le centre-ville. »«
Il faudrait que nous puissions l'interroger rapidement. »«
C'est moins facile que tu ne le penses. Il est en garde à vue au commissariat, pas à la gendarmerie. »
Qu'est-ce que ça change ?
Un suspect est un suspect.
Tu as raison, mais ici, la guerre des polices n'est pas tout à fait finie. Le commissaire et le chef de brigade sont comme chien et chat. Quand ils peuvent se faire des croche-pattes, ils n'hésitent pas. Tu ne les verras jamais jouer à la belote ensemble. C'est dommage, car ce sont de grands professionnels.
Tu peux faire le nécessaire, Jeff, ou préfères-tu que j'en parle à l'adjudant-chef Sagol, le responsable de l'enquête ?
Non, nous allons ruser. Je vais obtenir son transfert chez nous pour un motif légitime. Une fois dans la brigade, nous aviserons.
C'est d'accord. J'aimerais pouvoir l'interroger demain matin au plus tard.
Tu peux compter sur moi.
Le Nordiste savait que son ami Jeff était un homme de parole. Il raccrocha, pleinement soulagé. Il alla informer le chef Sagol. Ce dernier semblait très heureux que ses gendarmes et retrouver la trace de M. Bekran. Enfin, un individu plus suspect que les autres.
Si votre ami Jeff éprouve trop de difficultés, j'appellerai mon ami Jean-Pierre Boucher. Il pourra débloquer la situation.
Je vous remercie, chef, et je me languis de voir demain ce qu'il a dans le cervelet, ce Bekran.
Moi aussi, car le juge Silovski et le procureur se font trop pesants.
Le lendemain matin, à 8 heures, le téléphone sonna à la gendarmerie du bourg. Le double meurtre avait eu lieu le mardi 14 mai. Aujourd'hui, mercredi 22 mai, cela faisait exactement 8 jours que le forfait avait été commis. Le gendarme Jeff Huisman annonçait une bonne nouvelle.
« Bonjour, nous sommes en route pour vous amener un individu se nommant Bekran. Nous serons chez vous vers 9 heures, préparez le café. »
Liard, qui avait pris la communication, s'était relâché sur sa chaise. Il avait les deux pieds sur le bureau lorsque le chef Sagol entra.
« Bonjour, Liard. Il semble que ce matin, vous transformez le bureau en plage. Il ne vous manque que les expadrilles et la crème solaire. »
Liard ne laissa qu'un pied sur le bureau. Il avait ramené l'autre sous la chaise.
« C'est que, chef, je vais vous annoncer enfin une bonne nouvelle. Le suspect Bekran est en route. Il sera ici avant 9 heures. Alors pardonnez-moi ce moment de doux délire.
Mon cher, faute avouée est à demi pardonnée, et avec ce que vous venez de me communiquer, je vous pardonne aussi l'autre moitié.
Nous allons pouvoir explorer cette piste, chef. Mais le coco semble imbibé, et il n'est pas toujours cohérent d'après nos collègues.
Vous ont-ils dit comment ils avaient procédé pour l'emprunter à la police?
Non, mais nous le saurons tout à l'heure.
À 9 heures précises, le fourgon, en provenance de la gendarmerie de Bourgoin, se gara dans la cour de la caserne. Le chauffeur descendit, ouvrit l'arrière du véhicule. Deux Pandores, encadrant un homme d'une 40aine d'années, s'extirpèrent du Peugeot. Il y avait le gendarme Jeff Huisman et 2 autres collègues. Le nordiste fit les présentations. L'homme menotté, les mains dans le dos, ne bronchait pas. Jeff déclara « Voici quelqu'un qui a des choses à vous raconter. Il a soif, alors il ne cause plus. » Bekran s'était voûté et le manque de boisson le faisait trembler légèrement. Il avait le cheveu noir et poisseux, comme quelqu'un qui transpire et ne se lave pas les cheveux. Des gouttelettes apparaissaient sur son front. Il se mit à parler avec un fort accent, celui que l'on trouve ailleurs qu'à la campagne. C'était surprenant, car cette façon de s'exprimer était inhabituelle pour quelqu'un de cette génération. Le langage et les mots utilisés ressemblaient étrangement au vocabulaire des rappeurs de banlieue. « Et les keufs, je veux du rouquin !» Le nordiste répondit qu'il aurait de l'eau. Mais Crane répliqua « Je nique ta meuf !» Le chef Sagol n'apprécia pas beaucoup cette familiarité. Il demanda à ses hommes de placer le suspect dans une cellule avec une bouteille d'eau en plastique. Il demanda aux 3 gendarmes de Bourgoin de venir avec lui et aux autres de les rejoindre dans un bureau. Liard faisait le café pendant que tous discutaient en toute liberté. Sagol s'adressa à Jeff. « Dites-moi, gendarme Huisman, comment avez-vous fait pour extirper notre homme du commissariat ?»«
C'est tout bête, chef. Il y avait un petit contentieux sur un dossier de vol de bijoux à la tire. J'ai contacté mon collègue inspecteur et je lui ai mis le marché en main. C'était le renseignement contre la mise à disposition du dénommé Bekran. Maintenant, chef, je vais vous demander 10 jours de perme supplémentaire. » Le chef Sagol, visiblement de bonne humeur, répondit qu'il n'avait rien contre. Mais, compte tenu des circonstances, il ferait transiter sa demande par le bureau de M. Nicolas Sarkozy pour suite à donner. Jeff le remercia par une courbette et un large sourire. Le courant passait bien entre les 2 hommes. Le chef Sagol reprit la parole. Il demanda à Jeff si le suspect pouvait être intégralement pris en charge ici ou s'il ne pouvait en disposer que le temps de l'interrogatoire. « Il est totalement à vous. D'ailleurs, nous allons vous saluer. Le café était bon, c'est à refaire, et même dans l'autre sens. Nous aurons du mal à rivaliser autour de la cafetière, mais nous essaierons. » Les 3 gendarmes prirent congé et disparurent dans le fourgon. Le nordiste avait accompagné son copain Jeff jusqu'au parking. Le chef Sagol voulait procéder à l'interrogatoire de M. Bekran. Celui-ci s'était recroquevillé dans un coin de la cellule. Il portait un survêtement siglé des 3 bandes d'une marque connue. Le capuchon de la veste était rabattu sur son visage. Le suspect se cachait. Liard s'approcha de lui et lui dit de se lever. L'homme ne bougea pas. Il le secoua un peu. Il ne broncha pas plus. Liard voulut l'attraper par les épaules. L'homme lui plongea dans les jambes en essayant de le faire tomber. Le gendarme Liard était sur ses gardes et l'homme s'affala tandis que le Pandore était à 1 mètre de lui. Le nordiste vint prêter main forte à son collègue. Ils soulevèrent notre homme en le prenant fermement sous les bras. Il fut prévenu qu'au prochain geste d'énervement ou de rébellion, il le menotterait aussi aux jambes. Il marcha sans rechigner avec les 2 hommes. Ils lui intimèrent l'ordre de s'asseoir et de répondre aux questions qui seraient posées. Le suspect marmonna des mots inintelligibles. Les Pandores supposèrent qu'il était d'accord pour coopérer. Gilles commença par lui demander son état civil. L'homme grommela. « Je m'appelle Youssef Bekran, fils de Mustapha Bekran, mort pour la France, et d'Aïcha Benaïd. » Sagol se dit que c'était probablement un fils de Harki. Mais ce n'était pas important pour l'enquête. Gilles lui demanda de préciser sa date de naissance. « Le 15 avril. De quelle année ?» 1962. Que faites-vous dans la région, monsieur Bekran ? Interrogea le chef. À chaque question, Bekran essayait de se tourner vers l'investigateur. Il trembla sur sa chaise et répondit oui.
Le chef haussa le ton. « Je vous demande ce que vous faites dans la région. »«
Je voyage. »«
Pour le plaisir ou le travail ?»«
Je ne sais pas. » »«
Avez-vous un travail ?»«
Je suis au RMI. » »«
Donc vous voyagez pour le plaisir ?»«
C'est ça, pour le plaisir. » »«
Oui, c'est ça, pour le plaisir. »
Le client avait le don d'agacer le chef Sagol, qui se mit en retrait et demanda aux trois autres de continuer. Le nordiste prit le relais.
Vous avez couché au logis nuit, la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, vous confirmez ?
Je ne me rappelle pas les dates.
Où étiez-vous le lundi 13 et le mardi 14 mai ?
En voyage moutarde.
Que voulez-vous dire par voyage moutarde ?
Voyage épice.
Vous souvenez-vous du logis nuit ?
Oui, logis nuit.
Vous avez lu le journal ?
Oui, j'ai lu, De Vieux.
Vous avez lu De Vieux, répéta le nordiste.
Oui, mort, pendu, bien fait.
Qu'est-ce qui est bien fait, monsieur Bécrane ? Reprit le chef Sagol.
Bien pendu, les vieux. Je dis bien pendu.
Pourquoi dites-vous ça ? Vous les connaissez ?
Les deux vieux, capoute, c'est normal.
Au bout de 2 heures, Youssef Bécrane tremblait comme une feuille. Chaque fois qu'un des gendarmes formulait une question sur le double meurtre, il laissait entendre que c'était normal, que le travail était bien fait et qu'il avait bien travaillé. Le chef Sagol et ses subordonnés étaient partagés sur la culpabilité de Youssef Bécrane. Gilles et le nordiste étaient contre. Le chef Eliard plutôt pour. Mais chacun reconnaissait qu'il faudrait des aveux plus détaillés. Ils reprirent l'interrogatoire. Il était 11h30 et Youssef Bécrane annonça qu'il avait une déclaration à faire contre un verre de vin. Le chef Sagol accepta et on apporta un verre de vin rouge au suspect. Bécrane vida le verre d'un trait. L'absorption de cette petite dose d'alcool eut pour effet de calmer notre homme.
« Donnez-moi un autre verre, s'il vous plaît. »
Sagol refusa. « Dites-nous d'abord ce que vous savez, ensuite nous verrons. »
« C'est au sujet des vieux, c'est moi. »
Sagol lui demanda de répéter. « Les pendus dans le journal, c'est moi. » Il se mit à trembler fortement. Il se tordait sur la chaise. Les gendarmes étaient perplexes. Gilles prit le relais. « Pourquoi, monsieur Bécrane, pourquoi les avez-vous tués ? » ?»«
Trop vieux, trop soif. »
« Vous dites qu'ils étaient trop vieux et que vous aviez trop soif. » ?»«
Oui, j'ai trop soif, toujours trop soif. »
Sagol lui demanda s'il était prêt à signer ses aveux.
« Non, toi, tu ne me donnes pas à boire. »
Sagol haussa le ton et lui demanda s'il pouvait expliquer où habitaient les deux pendus, comme il disait.
« Oui, c'est plus haut que logis nuit. »
« Ça, je me rappelle, il y a un chien. »«
Comment il est ce chien, monsieur Bécrane ?» demanda le nordiste.
« Comme un chien, marron, avec une queue. »«
De quelle race, monsieur Bécrane ?»«
Je ne connais pas les races, je suis fatigué. »
Sagol regarda sa montre. Il tournait en rond depuis près de 3 heures.
« Avez-vous faim, monsieur Bécrane ?»«
Oui, j'ai soif. Je suis fatigué par vos questions. »
Sagol demanda à Liard d'aller chercher des sandwichs pour tout le monde. « Aujourd'hui, ça ne sera pas un repas gastronomique, pensa-t-il. » Ils réintégrèrent Youssef Bécrane dans sa cellule. Ce dernier était en manque et tremblait de tous ses membres. Sagol avait l'habitude des alcooliques sévères. Il était dangereux de procéder à un sevrage total. Il fallait lui donner un peu d'alcool de temps en temps. Bécrane pourrait boire un verre de vin rouge en mangeant. Liard revint avec 5 sandwichs. Comme il ne savait pas si M. Bécrane était musulman, il avait fait garnir le pain avec du poulet. Il aurait préféré du bon saucisson sur une baguette beurrée, mais il valait mieux éviter un incident si possible. Le suspect prit le casse-croûte sans poser de questions. Il avala le verre de vin d'un trait. Sagol se dit qu'à ce train, il faudrait un autre verre dans moins d'une heure. À 13h30, le chef Sagol décida de reprendre l'interrogatoire. Ils reprirent les mêmes questions. C'était une technique pour user l'adversaire. L'interrogatoire ressemblait à un combat, ou plutôt à une corrida, car les protagonistes ne disposaient pas des mêmes armes. Les gendarmes étaient le torero. Ils usaient la bête avant de porter la stockade. Bécrane était le taureau. Il était arrivé affaibli dans l'arène. Il lui avait planté des banderilles. Il se préparait elle acculait dans un coin. Seul contre tous, le taureau Bécrane semblait bien fragile. Ce n'était pas un pur produit de manade, un fier combattant. Il faisait penser aux vachettes que l'on voit l'été pour amuser le touriste dans les stations balnéaires. Il luttait de manière désordonnée et la seule issue était la mise à mort. Les questions se mélangeaient dans sa tête. Ses réponses étaient incohérentes. Il avait l'impression que tout allait de plus en plus vite et il ne comprenait pas ce qui se passait. Parfois, ses réponses sonnaient justes. Alors le chef Sagol parlait plus doucement. Il aimait qu'on lui parle doucement. Il dirait tout ce qu'on voulait si on lui parlait doucement, car il avait mal à la tête. Le chef Sagol lui demanda une fois de plus s'il était l'auteur de ce crime. Il répondit oui. Gilles formula la question différemment. « Avez-vous assassiné Madame et Monsieur Drochard ?»« Je ne suis pas un assassin. » Cela faisait 5 heures qu'il était interrogé. Le chef Sagol décida de faire une très courte pause. Bécrane fut remis en cellule, puis Sagol s'adressa aux 3 autres. « Messieurs, je vais informer le juge Silowski, mais avant, je souhaite avoir des aveux signés. Le suspect, malgré des propos altérés par son état, semble reconnaître avoir participé à l'assassinat. Il donne des explications. Je voudrais quand même savoir comment il a fait avant de prévenir le juge. » Bécrane tremblait de nouveau. Sagol lui demanda « Comment avez-vous procédé pour pendre Toinette et Germain ?»« Je l'ai posé sur un plot de bois. » « Qu'en avez-vous fait après le meurtre ?»« Je l'ai remis dans le tas de bois. » « Il est où ce tas de bois ?» Dans la remise. Sagol se dit qu'il ne pouvait pas inventer une telle histoire. Il donnait des détails plausibles. Si Bécrane n'était pas le coupable, il s'agissait d'un sacré affabulateur. À la demande du chef, Gilles s'était mis dans une autre pièce pour téléphoner au docteur Tardieu afin d'effectuer des prises de sang et vérifier l'état de santé du suspect. Le secrétariat répondit qu'il avait pris un jour de congé et qu'il n'était pas joignable. Gilles appela le docteur Giraud. Ce dernier précisa qu'il avait encore 2 personnes à recevoir. Il serait là dans 30 à 40 minutes. Lorsque le docteur Giraud arriva, Youssef Bécrane avait signé des aveux. Il tremblait et pleurait sur une chaise. Le médecin l'examina. Il le trouva en bonne santé et signa un certificat qu'il remit au chef Sagol. Ensuite, il lui administra un calmant et procéda au prélèvement de sang, ADN, gamma GT et autres analyses liées à l'alcoolisme du suspect. Le chef Sagol remercia le docteur Giraud. Ce dernier, par discrétion, ne posa aucune question sur l'affaire Drochard. Il salua les gendarmes et le suspect et retourna à ses obligations. Le chef, qui appréciait déjà le docteur Giraud, se trouva conforté dans l'opinion qu'il avait du praticien et surtout de l'homme. Giraud était un type bien. Il savait faire la part des choses, être curieux par nécessité et être discret par éducation. Le chef Sagol préparait un rapport pour Madame Silowski, juge d'instruction. Il voulait que son compte rendu de la garde à vue de M. Youssef Bécrane soit le plus bref possible. De toute façon, il allait l'appeler dans les minutes à venir. Pendant que Youssef Bécrane dormait dans sa cellule, à quelques mètres de là, les 4 gendarmes s'étaient réunis. Ils confrontaient leurs points de vue concernant la présentation au parquet du suspect. « Messieurs, » le chef Sagol se leva de sa chaise, « messieurs, j'ai encore des doutes. Nous avons des aveux, il nous reste à trouver les preuves. Les aveux sont parfois précis. Si nous avons les empreintes, c'est gagné. Sinon, avec un bon avocat, je vous fiche mon billet que le dossier ne résistera pas longtemps. » Gilles prit la parole. « Chef, le plot de bois, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est vrai, et j'avoue que c'est le seul aveu auquel j'accorde du crédit. Cet homme est trop rongé par l'alcool. Les neurones sont touchés, et parfois je cherche la cohérence dans ses propos. » Le nordiste interrogea. « Quel est le mobile du crime, puisque rien n'a été volé, hormis un jambon ?» Sagol répondit. « Ouais, et il faut avoir la réponse rapidement. Youssef est-il musulman? Et si oui, est-il pratiquant ?» Lia répliqua. « S'il ne mange pas de porc, qu'est-ce qu'il aurait fait du jambon ?» « Messieurs, pendant que je préviens le juge, peaufinez quelques questions avec M. Bécrane. Le chef Sagol appela le palais de justice. « Passez-moi le bureau du juge Silovski. »
« De la part de qui ?»«
L'adjudant-chef Sagol. »
« Julie Silovski est l'appareil, je vous écoute. »«
Bonjour, madame le juge. Je vous appelle au sujet de l'affaire Drochard. »
« J'attends des résultats, monsieur Sagol. Vous faites quoi ?»«
Mon travail, madame. Simplement mon travail. Et mon équipe aussi. »
« Il y a 3 jours que je n'ai pas eu de rapport de votre part. »
Le travail de terrain a perturbé la rédaction et la transmission des documents. Je ne manquerai pas de vous les transmettre, madame. »
Julie Silovski était aussi désagréable qu'à l'accoutumée.
Toutefois, le chef Sagol perçut de la lassitude chez son interlocutrice. Il se garda bien de faire une allusion quelconque à la future naissance. Madame Silovski était imperméable à tout sentiment humain. Sagol l'avait baptisée la cyberjuge. Il se souvenait de leur entrevue quelques jours auparavant, ainsi que de ses remarques désobligeantes auprès du procureur de la République.
« Que désirez-vous, monsieur Sagol ?»«
Vous informer que nous avons un suspect en garde à vue. »«
Avez-vous des charges contre lui ?»«
Bien entendu, madame. Sinon, je ne vous aurais pas dérangé. »
Julie Silovski était épuisée. Sa grossesse n'était pas une partie de plaisir. Elle demanda des précisions.
Le chef Sagol sentait venir l'heure de sa revanche. Il répliqua qu'il ne pouvait donner plus d'éléments par téléphone. Elle recevrait un fax dans les minutes à venir.
Le juge Silovski était une femme intelligente. Elle comprit qu'elle n'obtiendrait rien de plus de la part du responsable de l'enquête.
« J'attends vos documents afin de prendre une décision concernant la mise en examen de l'individu suspecté. »
« J'attends votre prise de position, madame le juge. À plus tard. »
Julie Silovski n'eut pas le temps de répliquer. Sagol avait raccroché. Le téléphone lui renvoyait la sonnerie caractéristique qui l'agaçait. Elle était lasse, et bien que satisfaite de l'avancement de l'enquête, elle fut contrariée par l'aplomb du chef Sagol.
Le chef était devant le fax. Le rapport pour madame le juge d'instruction Julie Silovski était dans le chargeur de la machine. Chaque fois qu'une feuille avançait, il imaginait sa destinataire trépignant d'impatience devant la lenteur du débit. Sa conscience lui susurrait « C'est à l'image de ta justice, Julie. » Il était 18h30. Youssef Bekran dormait toujours dans sa cellule. Son corps s'agitait de temps en temps. Parfois, il était pris de spasmes violents et il râlait. Le docteur Giraud avait prévenu « Monsieur Bekran risquait de s'agiter souvent, mais sa vie n'était aucunement menacée par le sevrage actuel. En revanche, dans les jours à venir, il conviendrait de confier son cas à un service spécialisé dans la désintoxication. Sagol attendait la réponse du juge avant de libérer ses collaborateurs. Youssef Bekran était en garde à vue depuis le matin 9h30. Ils avaient encore près de 39 heures avant l'expiration du délai de garde à vue. Le fax se mit à crépiter. Le compteur indiquait que le document contenait 2 pages. Gilles tendit les feuilles à son chef. Sagol reconnut le cachet du tribunal et la signature de Julie Silovski. Il prit la première page et parcourut le document. Madame le juge abondait dans le sens de l'enquête. Le jeudi 23 mai à 8h, elle souhaitait voir le suspect dans son bureau afin de lui signifier sa mise en examen pour le meurtre des époux Drochard. Le deuxième feuillet ne contenait que les cachets et signatures de madame le juge. Aucun autre commentaire ne figurait sur le document. Le chef Sagol eut un petit sourire en coin. Il pensait déjà au lendemain. Le soleil brillait sur la région. La météo annonçait des températures estivales. En ce jeudi, le chef Sagol et le gendarme Gilles attendaient devant le palais de justice. Ils avaient laissé le soin à leurs 2 collègues de transférer M. Youssef Bekran jusqu'ici. Il était 7h50 lorsque le fourgon arriva devant le palais de justice. Les 2 hommes rejoignirent Liard et le nordiste. Liard était au volant, le nordiste descendit avec son prisonnier. Youssef Bekran semblait avoir une démarche encore plus chaloupée que la veille. Ses jambes embarquées et sa démarche faisaient penser à quelqu'un dont les membres étaient coincés au niveau des hanches. Liard repartit garer le fourgon dans l'enceinte du palais. Il rejoindrait ses collègues par un autre accès. Sagol demanda si le prévenu avait été raisonnable cette nuit. Le nordiste répondit qu'il avait dormi jusqu'à 6 heures ce matin
et qu'il avait déjeuné normalement. Les trois gendarmes aperçurent leurs collègues qui couraient pour les rejoindre. Ils étaient à 2 mètres du bureau de Madame Silowski. Le chef Sagol frappa à la porte. Une jeune femme aux cheveux ras et noirs ouvrit. « Bonjour, Monsieur Sagol. Entrez, je vous prie. Madame Silowski aura un léger retard. Elle vous demande de bien vouloir l'excuser. » Les gendarmes se tournèrent les uns vers les autres sans parler. Ils firent asseoir Youssef Bekran. Les quatre hommes restèrent debout. L'attente dura près de 20 minutes. Enfin, la porte s'ouvrit. Madame Silowski apparut dans l'entrebâillement. Elle était méconnaissable. Le visage boursouflé était livide. Elle avait dû se dépêcher, car elle était essoufflée. Se déplaçant lourdement, elle contourna le groupe et se posa dans son fauteuil. Elle commença par une phrase d'excuse. « Pardonnez-moi ce retard, un petit souci de santé, indépendant de ma volonté. » Le chef Sagol se leva. Il libéra le prisonnier des menottes. « Je vous présente M. Youssef Bekran, madame le juge. » « Monsieur Bekran, savez-vous pour quelle raison vous êtes devant moi aujourd'hui ?» Bekran secoua la tête, mais n'articula aucun son. « Je ne vous ai pas entendu, monsieur Bekran. » « Oui, madame la juge. » Madame Silowski reprit l'interrogatoire d'identité. Bekran se mit à trembler. Le juge répéta les informations recueillies par les gendarmes. Le suspect ne pouvait se contrôler. Le manque d'alcool se faisait cruellement sentir. Julie Silowski continua d'interroger le prévenu. Ce dernier répondait par des onomatopées incompréhensibles. Tel un rouleau compresseur, Madame Silowski continuait son monologue. Les Pandores médusés contemplaient la scène. « Monsieur Youssef Bekran, je vous mets en examen pour l'assassinat d'Antoinette Drochard le mardi 14 mai. Avez-vous quelque chose à déclarer ?»« J'ai tué personne, c'est pas moi, madame. » Bekran s'effondra sur la chaise. Il pleurait. « Monsieur Sagol, voici le document pour la mise sous écrou du sieur Youssef Bekran. Bon travail. Nous procéderons à la reconstitution après-demain vers 10 heures. Si vous n'y voyez pas d'objection, monsieur Sagol. » « C'est entendu, madame le juge. » « Monsieur Bekran, samedi matin, nous ferons la reconstitution. Nous nous transporterons sur le lieu du crime. Avez-vous un avocat ?» Il ne répondit rien. « Voulez-vous que je commette un avocat pour vous défendre, monsieur Bekran ?» Youssef Bekran tremblait. Il répondit « Oui ».« Je fais le nécessaire, messieurs. À bientôt. » Les quatre gendarmes firent le salut militaire. Ils menottèrent le prisonnier et quittèrent le bureau du juge d'instruction. Direction la maison d'arrêt. « En route, messieurs, » dit l'adjudant-chef Sagol. Pendant le trajet, les quatre gendarmes furent silencieux. Ils conduisirent le prévenu à bon port et le confièrent aux bons soins de l'administration pénitentiaire. Le chef Sagol leur parla franchement. « Je sais ce que vous pensez de la reconstitution un samedi matin. » Madame Silowski a voulu montrer qu'elle reprenait les choses en main. « Vous avez bien travaillé et je préfère bosser avec vous qu'avec elle. » « N'entrons pas dans son jeu. De plus, je ne suis toujours pas convaincu à 100% de la culpabilité de notre présumé coupable. » Il faudra être attentif aux informations que nous pourrions glaner par ailleurs. Samedi 25 mai, le chef Sagol et le gendarme Gilles étaient allés extraire Youssef Bekran de la maison d'arrêt. Ils étaient accompagnés de 2 collègues pour l'emmener au bourg. Le juge Silowski les rejoindrait à la brigade de gendarmerie. Monsieur Bekran était nerveux. Il se passait sans cesse les mains dans sa chevelure noire. Il n'avait pas adressé la parole aux gendarmes. Arrivé à destination, il avait été placé dans une cellule en attendant l'arrivée du juge. Un avocat était déjà là et demanda à être seul avec son client. L'avocat ressemblait plus à un premier communiant qu'à un ténor du barreau. Il avait les cheveux châtain clair, les yeux marrons, derrière des lunettes avec des petits verres. La monture était invisible. Il devait avoir moins de 30 ans. Il avait été désigné par le bâtonnier, comme c'est toujours le cas pour une désignation d'office. Malgré sa jeunesse, il prenait le dossier à cœur, et Bekran semblait content de le rencontrer. Il asséna 3 mots à son défenseur. « C'est pas moi. »« Je comprends, monsieur Bekran, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Il vous faut m'expliquer ce qui s'est réellement passé.
C'est pas moi. Je me rappelle plus.
Pour vous défendre, il ne faudra pas dire c'est pas moi. Mais le prouvez, monsieur Bécran. Allons, faites un effort. Il est presque 10 heures et madame le juge arrive.
Je veux pas la voir.
Madame Silowski se présente à la gendarmerie avec plus de ponctualité que jeudi, observa le gendarme Gilles. Julie Silowski avait meilleure mine. Elle demanda si tout était prêt. Le chef Sagol lui dit qu'elle pouvait donner le signe de départ. À l'exception de 2 gendarmes de permanence, tout l'effectif disponible était mobilisé pour sécuriser les lieux. Outre le fourgon qui transportait le présumé coupable, 3 voitures de gendarmerie suivaient derrière l'avocat et le juge. Les Pandores se déployèrent tout autour de la propriété, de feu Toinette et Germain. Lorsque les gendarmes voulurent extraire Youssef Bekram du fourgon et lui enfiler un gilet pare-balles, il refusa tout net de descendre et de participer à la reconstitution. Julie Silowski appela l'avocat et se rendit auprès de Youssef. Rien n'y fit. Il affirmait qu'il n'avait rien à faire ici et qu'il resterait dans la voiture. Madame Silowski était excédée. Elle menaça le prévenu. L'avocat prit le relais de son client et se déclara solidaire. « Madame le juge, je ne participerai pas à cette mascarade. Je reste avec mon client. Maître, si vous pensez agir conformément au code de déontologie de votre profession, vous êtes dans l'erreur. Je saisirai le bâtonnier sur cet incident déplorable. La jeunesse n'empêchait pas notre homme d'avoir du caractère. Madame, vous me parlez de déontologie. Je connais une parabole où l'on parle de paille et de poutre dans l'œil. Je crois que la teneur de vos propos s'applique parfaitement à la situation. Si je suis solidaire de mon client, c'est que j'estime que ses droits sont bafoués. Je n'ai pas eu connaissance du dossier et j'ai rencontré mon client quelques minutes seulement avant votre arrivée. Il me semble que vous estimez avoir trouvé un coupable et souhaitez aller vite. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Vous avez terminé, maître ?
Absolument, madame.
Alors, messieurs, allons-y. Julie Silowski déclara aux gendarmes qu'elle prendrait un figurant parmi eux. Les gendarmes ne manifestèrent aucun signe de désapprobation. Le chef Sagol les avait prévenus qu'il fallait éviter tout incident avec madame le juge. Ils pénétrèrent dans la maison. 10 minutes après, le convoi repartait dans l'autre sens. La reconstitution était terminée. Comme à son habitude, madame le juge prit sèchement congé sans saluer l'avocat du prévenu. Youssef Bekran avait compris qu'il avait un vrai avocat et il accepta de le revoir dès le lundi. Le chef Sagol serra la main de l'avocat. L'échange fut vigoureux. Les 2 hommes n'échangèrent pas un mot sur ce qui venait de se passer. Avec un regard et une poignée de main, ils s'étaient tout dit. Sagol pensa que l'on pouvait être jeune et de l'autre côté de la barrière tout en étant un homme et un vrai.